Chapitre 2. Le diamant bleu. Le soir du 27 mars, au 134 de l'avenue Henri Martin, dans le petit hôtel que lui avait légué son frère 6 mois auparavant, le vieux général baron d'Autrec, ambassadeur à Berlin sous le Second Empire, dormait au fond d'un confortable fauteuil, tandis que sa demoiselle de compagnie lui faisait la lecture, et que la sœur Auguste bassinait son lit et préparait la veilleuse. À 11 heures, la religieuse, qui par exception devait rentrer ce soir-là au couvent de sa communauté et passer la nuit près de la sœur supérieure, la religieuse prévint la demoiselle de compagnie.
« Mademoiselle Antoinette, mon ouvrage est fini, je m'en vais. »«
Bien, ma sœur. »
« Et surtout, n'oubliez pas que la cuisinière a congé et que vous êtes seule dans l'hôtel avec le domestique. »
« Soyez sans crainte pour monsieur le baron. Je couche dans la chambre voisine, comme c'est entendu, et je laisse ma porte ouverte. » La religieuse s'en alla. Au bout d'un instant, ce fut Charles, le domestique, qui vint prendre les ordres. Le baron s'était réveillé. Il répondit lui-même.
« Toujours les mêmes ordres, Charles. Vérifiez si la sonnerie électrique fonctionne bien dans votre chambre et au premier appel, descendre et courir chez le médecin. » « Mon général s'inquiète toujours. Ça ne va pas, ça ne va pas fort. Allô, mademoiselle Antoinette, où en étions-nous de notre lecture ?»«
Monsieur le baron ne se met donc pas au lit ?»«
Mais non, je me couche très tard. Et d'ailleurs, je n'ai besoin de personne. »
20 minutes après, le vieillard sommeillait de nouveau, et Antoinette s'éloignait sur la pointe des pieds. À ce moment, Charles fermait soigneusement, comme à l'ordinaire, tous les volets du rez-de-chaussée. Dans la cuisine, il poussa le verrou de la porte qui donnait sur le jardin, et dans le vestibule, il accrocha en outre, d'un battant à l'autre, la chaîne de sûreté. Puis il regagna sa mansarde au 3e étage, se coucha et s'endormit. 1 heure peut-être s'était écoulée quand, soudain, il sauta d'un bond hors de son lit. La sonnerie retentissait. Elle retentit longtemps, 7 ou 8 secondes peut-être, et de façon posée, ininterrompue.
« Bon, se dit Charles, recouvrant ses esprits,
une nouvelle lubie du baron. »
Il enfila ses vêtements, descendit rapidement l'escalier, s'arrêta devant la porte et, par habitude, frappa. Aucune réponse. Il entra.
« Tiens, murmura-t-il, pas de lumière? Pourquoi diable ont-ils éteint ?»
Et à voix basse, il appela
« Mademoiselle ?»
Aucune réponse.
« Vous êtes là, mademoiselle ? Qu'y a-t-il donc ? Monsieur le baron est malade ?»
Le même silence autour de lui, un silence lourd qui finit par l'impressionner. Il fit 2 pas en avant. Son pied heurta une chaise et, l'ayant touchée, il s'aperçut qu'elle était renversée. Et tout de suite, sa main rencontra par terre d'autres objets. Un guéridon, un paravent. Inquiet, il revint vers la muraille et, à tâtons, chercha le bouton électrique. Il l'atteignit, le tourna. Au milieu de la pièce, entre la table et l'armoire à glace, gisait le corps de son maître, le baron d'Autrec.
« Quoi ? Est-ce possible ? »
bégaya-t-il. Il ne savait que faire. Et sans bouger, les yeux écarquillés, il contemplait le bouleversement des choses, les chaises tombées, un grand flambeau de cristal cassé en 1000 morceaux, la pendule qui gisait sur le marbre du foyer, toutes ces traces qui révélaient la lutte affreuse et sauvage. Le manche d'un stylet d'acier étincelait, non loin du cadavre. La lame en dégouttait de sang. Le long du matelas pendait un mouchoir souillé de marques rouges. Charles hurla de terreur. Le corps s'est étendu en un suprême effort, puis s'était recroquevillé sur lui-même. 2 ou 3 secousses, et ce fut tout. Il se pencha. Par une fine blessure au cou, du sang giclait, qui mouchetait le tapis de taches noires. Le visage conservait une expression d'épouvante folle.
« On l'a tué !» balbutia-t-il. « On l'a tué !»
Et il frissonna à l'idée d'un autre crime probable. La demoiselle de compagnie ne couchait-elle pas dans la chambre voisine? Et le meurtrier du baron ne l'avait-il pas tué, elle aussi?
Il poussa la porte. La pièce était vide. Il conclut qu'Antoinette avait été enlevée, ou bien qu'elle était partie avant le crime. Il regagna la chambre du baron, et ses yeux ayant rencontré le secrétaire, il remarqua que ce meuble n'avait pas été fracturé. Bien plus, il vit sur la table, près du trousseau de clés et du portefeuille que le baron y déposait chaque soir, une poignée de louis d'or. Charles saisit le portefeuille et en déplia les poches. L'une d'elles contenait des billets de banque. Il les compta. Il y avait 13 billets de 100 francs. Alors, ce fut plus fort que lui. Instinctivement, mécaniquement, sans même que sa pensée participât au geste de la main, il prit les 13 billets, les cacha dans son veston, dégringola l'escalier, tira le verrou, décrocha la chaîne, referma la porte et s'enfuit par le jardin. Charles était un honnête homme. Il n'avait pas repoussé la grille que, frappé par le grand air, le visage rafraîchi par la pluie, il s'arrêta. L'acte commis lui apparaissait sous son véritable jour, et il en avait une horreur subite. Un fiacre passait. Il héla le cocher.
Camarade, file au poste de police et ramène le commissaire, au galop. Il y a mort d'homme.
Mais quand Charles voulut rentrer, il ne le put pas. Lui-même avait fermé la grille, et la grille ne s'ouvrait pas du dehors. D'autre part, il était inutile de sonner puisqu'il n'y avait personne dans l'hôtel. Il se promena donc le long de ces jardins qui font à l'avenue, du côté de la Muette, une riante bordure d'arbustes verts et bien taillés. Et ce fut seulement après une heure d'attente qu'il put enfin raconter au commissaire les détails du crime et lui remettre entre les mains les 13 billets de banque. Pendant ce temps, on réquisitionnait un serrurier, lequel, avec beaucoup de peine, réussit à forcer la grille du jardin et la porte du vestibule. Le commissaire monta et tout de suite, du premier coup d'œil, il dit au domestique
« Tiens, vous m'aviez annoncé que la chambre était dans le plus grand désordre ?»
Il se retourna. Charles semblait cloué au seuil, hypnotisé. Tous les meubles avaient repris leur place habituelle. Le guéridon se dressait entre les deux fenêtres, les chaises étaient debout et la pendule au milieu de la cheminée. Les débris du candélabre avaient disparu. Il articula, béant de stupeur,
« Le cadavre, monsieur le baron !»«
Au fait, s'écria le commissaire, où se trouve la victime ?» Il s'avança vers le lit. Sous un grand drap qu'il écarta, reposait le général baron d'Autrec, ancien ambassadeur de France à Berlin. Sa houppelande de général le recouvrait, orné de la croix d'honneur. Le visage était calme, les yeux étaient clos. Le domestique balbutia
« Quelqu'un est venu !»«
Par où ?»«
Je ne sais pas, mais quelqu'un est venu pendant mon absence. Tenez, il y avait là, par terre, un poignard très mince, en acier, et puis, sur la table, un mouchoir avec du sang. Il n'y a plus rien. On a tout enlevé, on a tout rangé. »
« Mais qui ?
L'assassin !
Nous avons trouvé toutes les portes fermées.
C'est qu'il est resté dans l'hôtel.
Il y serait encore, puisque vous n'avez pas quitté le trottoir. »
Le domestique réfléchit et prononça lentement.
« En effet, je ne me suis pas éloigné de la grille. Cependant,
voyons, quelle est la dernière personne que vous ayez vue près du baron ?»
« Mademoiselle Antoinette, la demoiselle de compagnie. »«
Qu'est-elle devenue ?»«
Selon moi, son lit n'étant même pas défait, elle a dû profiter de l'absence de la sœur Auguste pour sortir, elle aussi. »« Cela ne m'étonne qu'à moitié. Elle est jolie, jeune. »«
Mais comment serait-elle sortie ?»«
Par la porte. »«
Vous aviez mis le verrou et accroché la chaîne. » »«
Bien plus tard. À ce moment, elle avait dû quitter l'hôtel. »
Et le crime aurait eu lieu après son départ.
Naturellement.
On chercha du haut en bas de la maison, dans les greniers comme dans les caves, mais l'assassin avait pris la fuite.
Comment ? À quel instant ?
Était-ce lui ou un complice qui avait jugé à propos de retourner sur la scène du crime et de faire disparaître tout ce qui eût pu le compromettre? Telles étaient les questions qui se posaient à la justice. À 7 heures survint le médecin légiste. À 8 heures, le chef de la sûreté. Puis ce fut le tour du procureur de la République et du juge d'instruction. Il y avait aussi, encombrant l'hôtel, des agents, des inspecteurs, des journalistes, le neveu du baron d'Autrec et d'autres membres de la famille. On fouilla, on étudia la position du cadavre d'après les souvenirs de Charles, on interrogea dès son arrivée la sœur Auguste. On ne fit aucune découverte. Tout au plus, la sœur Auguste s'étonnait-elle de la disparition d'Antoinette Bréa. Elle avait engagé la jeune fille 12 jours auparavant, sur la foi d'excellents certificats, et se refusait à croire qu'elle eût pu abandonner le malade qui lui était confié pour courir seule la nuit.
D'autant plus qu'en ce cas,
appuya le juge d'instruction,
elle serait déjà rentrée. Nous en revenons donc au même point. Qu'est-elle devenue?
Pour moi, dit Charles, elle a été enlevée par l'assassin. L'hypothèse était plausible et concordait avec certaines apparences. Le chef de la sûreté prononça « Enlevée ? Ma foi, cela n'est point invraisemblable. »
« Non seulement invraisemblable, dit une voix, mais en opposition absolue avec les faits, avec les résultats de l'enquête, bref, avec l'évidence même. »
La voix était rude, l'accent brusque, et personne ne fut surpris quand on reconnut Ganimard. À lui seul, d'ailleurs, on pouvait pardonner cette façon un peu cavalière de s'exprimer.
« Tiens, c'est vous, Ganimard, s'écria M. Dudouis. « Je ne vous avais pas vu. »«
Je suis là depuis 2 heures. »«
Vous prenez donc quelque intérêt à ce qui n'est pas le billet 514 série 23, l'affaire de la rue Clapeyron, la dame blonde et Arsène Lupin ?»«
Hé hé !» ricana le vieil inspecteur. « Je n'affirmerai pas que Lupin n'est pour rien dans l'affaire qui nous occupe. Mais laissons de côté, jusqu'à nouvel ordre, l'histoire du billet de loterie et voyons de quoi il s'agit. »
Ganimard n'est pas un de ces policiers de grande envergure dont les procédés font école et dont le nom restera dans les annales judiciaires. Il lui manque ces éclairs de génie qui illuminent les Dupin, les Lecoq et les Sherlock Holmes. Mais il a d'excellentes qualités moyennes, de l'observation, de la sagacité, de la persévérance et même de l'intuition. Son mérite est de travailler avec l'indépendance la plus absolue. Rien, si ce n'est peut-être l'espèce de fascination qu'Arsène Lupin exerce sur lui, rien ne le trouble ni ne l'influence. Quoi qu'il en soit, son rôle en cette matinée ne manqua pas d'éclat et sa collaboration fut de celle qu'un juge peut apprécier.
« Tout d'abord, commença-t-il, « je demanderai au sieur Charles de bien préciser ce point. Tous les objets qu'il a vus la première fois, renversés ou dérangés, étaient-ils, à son second passage, exactement à leur place habituelle ?»«
Exactement. »«
Il est donc évident qu'ils n'ont pu être remis à leur place que par une personne pour qui la place de chacun de ces objets était familière. »
La remarque frappa les assistants. Ganimard reprit.
« Une autre question, monsieur Charles. Vous avez été réveillé par une sonnerie. Selon vous, qui vous appelait ?»«
Monsieur le baron, parbleu. » »«
Soit, mais à quel moment aurait-il sonné ?»«
Après la lutte, au moment de mourir. » »«
Impossible, puisque vous l'avez trouvé gisant, inanimé, à un endroit distant de plus de 4 mètres du bouton d'appel. »
« Alors, il a sonné pendant la lutte. »«
Impossible, puisque la sonnerie, avez-vous dit, fut régulière, ininterrompue et dura 7 ou 8 secondes. Croyez-vous que son agresseur lui eût donné le loisir de sonner ainsi ?»«
Alors, c'était avant, au moment d'être attaqué. »«
Impossible. Vous nous avez dit qu'entre le signal de la sonnerie et l'instant où vous avez pénétré dans la chambre... « Il s'est écoulé tout au plus 3 minutes. Si donc le baron avait sonné avant, il aurait fallu que la lutte, l'assassinat, l'agonie et la fuite se soient déroulées en ce court espace de 3 minutes. Je le répète, c'est impossible.
Pourtant, dit le juge d'instruction, quelqu'un a sonné. Si ce n'est pas le baron, qui est-ce?
Le meurtrier. Dans quel but? J'ignore son but. Mais au moins le fait qu'il a sonné nous prouve-t-il qu'il devait savoir que la sonnerie communiquait avec la chambre d'un domestique. Or, qui pouvait connaître ce détail, sinon une personne de la maison même?
Le cercle des suppositions se restreignait. En quelques phrases rapides, nettes, logiques, Ganimard plaçait la question sur son véritable terrain. Et la pensée du vieil inspecteur apparaissant clairement, il sembla tout naturel que le juge d'instruction conclue
« Bref, en deux mots, vous soupçonnez Antoinette Bréa. »
« Je ne la soupçonne pas, je l'accuse. »
« Vous l'accusez d'être l'accomplice ?»«
Je l'accuse d'avoir tué le général baron d'Autrec. »
« Allons donc, et quelle preuve ?»«
Cette poignée de cheveux que j'ai découverte dans la main droite de la victime, dans sa chair même, où la pointe de ses ongles l'avait enfoncée. »
Il les montra, ses cheveux. Ils étaient d'un blond éclatant, lumineux comme des fils d'or. Et Charles murmura
« Ce sont bien les cheveux de Mademoiselle Antoinette. Pas moyen de s'y tromper. »
Et il ajouta
« Et puis, il y a autre chose. Je crois bien que le couteau, celui que je n'ai pas revu la seconde fois, lui appartenait, et elle s'en servait pour couper les pages des livres. »
Le silence fut long et pénible, comme si le crime prenait plus d'horreur d'avoir été commis par une femme.